Frères et sœurs en Christ, je souhaite à chacun de vous la paix de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions parce qu'il t'a plu de nous rassembler encore ce soir dans le cadre de ce moment, de ce temps que nous avons mis de côté pour nous rapprocher davantage de toi, pour t'adorer, pour t'écouter et pour nous engager davantage à te servir, à vivre pour toi et à aimer, à aider ceux qui nous entourent à avancer vers toi pour retrouver le bonheur qui ne peut se retrouver, qu'on ne peut trouver qu'auprès de toi. Seigneur, ce soir, nous sommes encore là pour t'écouter. Par ton Esprit Saint, ouvre nos oreilles et nos cœurs. Prépare-nous à t'écouter véritablement, à comprendre ce que tu as à nous dire et à nous engager à te servir comme tu le veux pour que par nous, par nos œuvres, ton nom soit glorifié dans ce monde. Écoute notre prière, exauce-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, les organisateurs du carême 2019 m'ont demandé de méditer avec vous sur le thème donne. Donne, c'est juste un verbe. Et on peut se poser la question, qui donne? Et il donne quoi? Et à qui? Déjà, je n'ai pas besoin de vous expliquer le verbe. Chacun connaît ce verbe. Chacun a déjà prononcé, a déjà fait ce geste, le geste qui correspond à ce verbe, 1000 fois depuis ce matin. Et donc, chacun peut mettre dans ce verbe ce qu'il veut, selon le milieu, selon ce qu'on veut obtenir. Moi, j'ai compris ce verbe donne comme donner à Dieu. Donner à Dieu, c'est-à-dire que nous allons parler ce soir de l'offrande. Et je me suis interrogé, je me suis demandé, mais qui donne l'offrande? Qui donne l'offrande? Et est-ce que quand il donne, il comprend bien son geste? Est-ce qu'il est au clair sur celui à qui il donne? Est-ce qu'il connaît bien cette personne? Et pour cette raison, je veux demander à chacun de nous qui donne l'offrande. Et si nous disons c'est le chrétien, comme nous allons dire, Le chrétien, c'est qui? C'est une question banale, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas... cette question banale n'est pas... Ce n'est pas...
Encore chante-le, mon cœur est...
Comment dire ça? Pour demander, pour la poser, n'est pas... C'est pas absurde de la poser. Parce qu'il faut ça d'abord que nous sachions qui nous sommes. Chrétiens. Un chrétien. Qui est chrétien? Que veut dire être chrétien? Il faut d'abord savoir que nous sommes nés pécheurs. Et le pécheur est séparé de Dieu. Condamné à la perdition éternelle. Pour sortir donc de cette situation, Dieu a donné une issue. Parce que on est mort, on est mort éternellement à cause du péché. Pour sortir donc de cette situation, il faut se séparer du péché. Il faut abandonner le péché. Et comment le faire? Il faut naître de nouveau. Et que veut dire naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est donc se séparer de ses péchés. Se séparer de ses péchés définitivement. Et dès lors, le Saint-Esprit nous transforme et nous devenons une nouvelle créature. Et lorsque nous devenons une nouvelle créature, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés gratuitement, sans rien payer. Pourquoi? Nous n'avons rien à payer parce que Dieu n'a besoin de rien. C'est lui qui a tout créé. Nous ne sommes pas capables de lui donner quoi que ce soit. Mais il nous crée à nouveau pour de bonnes œuvres. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous nous séparons du péché, de la vie pécheresse que nous menions. Et nous devenons des personnes nouvelles destinées à accomplir des bonnes œuvres. Nous devons donc comprendre que la vie chrétienne a plusieurs facettes. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons donné quoi que ce soit. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes... Dieu a besoin de ceux-là qui doivent lui donner des choses, lui fournir des choses. Nous sommes sauvés pour rien, gratuitement. Mais nous devons le prouver. Nous devons prouver que nous sommes sauvés par les œuvres. C'est pour cela que Jacques dira: il n'y a pas de foi sans les œuvres. Une foi sans les œuvres est morte. Il faut donc, si nous sommes sauvés, il faut démontrer. Il faut démontrer aux yeux du monde et aux yeux de Dieu en accomplissant des actions. Parmi ces actions, il y a l'offrande. Et j'ai choisi donc de parler avec vous ce soir de l'offrande. Nous commencerons par l'Ancien Testament. Et ensuite, nous irons dans le Nouveau Testament. Et enfin, en tout cas, nous irons dans le Nouveau Testament. Nous verrons aussi comment l'Église évangélique fait. Comment l'Église évangélique fait avec l'offrande. Comment ça se passe dans l'Église évangélique. Et nous terminerons par quelle est la bonne manière, par la bonne manière d'offrir les offrandes. L'offrande et l'offrande des sacrifices est la dîme dans l'Ancien Testament. Je dois d'abord vous dire que dans l'Ancien Testament, il y a une multitude d'offrandes et de sacrifices. Les Juifs accomplissaient beaucoup et beaucoup d'offrandes et faisaient beaucoup et beaucoup de sacrifices. Le mot d'abord, offrande, se dit en hébreu korban. Korban. Et en grec korban. Et ça a donné en français don, présent, offert à une divinité, au Créateur. Dans l'Ancien Testament, il y a parmi ces dons, nous avons des offrandes qui se donnaient pendant la fête des semaines. Et la fête des huttes. C'est une fête qui rappelait les huttes que les Juifs avaient au désert lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, pendant qu'ils faisaient les pérégrinations au désert. Il y avait aussi des sacrifices prescrits pour la purification des lépreux. Il y avait l'offrande prescrite pour la purification après l'accouchement. Il y avait l'offrande pour la consécration d'un prêtre. On devait également donner les prémices des animaux et des récoltes régulièrement à Dieu. On devait même donner le vin, l'huile, l'encens. Il y avait également l'offrande des farines, etc., etc. C'est tellement, ces offrandes et ces sacrifices sont tellement nombreux. Il y avait l'Holocauste. Dans l'Holocauste, l'animal est complètement consumé, brûlé, en hommage à Dieu, pour être reconnaissant pour ses bienfaits. Il y avait l'offrande de farine. Il y avait les sacrifices de communion et d'action de grâce. Ces sacrifices étaient associés à l'expiation. C'est-à-dire, on donnait ce sacrifice pour demander que Dieu efface les péchés. Le quatrième type de sacrifice comprenait les sacrifices de culpabilité ou de réparation et les sacrifices pour le péché. C'est-à-dire que le sacrifice de culpabilité, c'est-à-dire que quand on était coupable, il y avait des sacrifices à faire. Parfois, il fallait même réparer. N'est-ce pas, c'est tort. Il fallait réparer le péché par des sacrifices. Il y avait les dîmes. Les dîmes des récoltes et du bétail. Les dîmes de tout, en tout cas, les dîmes de tout, de l'argent, les dîmes des vivres, les dîmes des animaux. Et ces dîmes servaient à l'entretien des prêtres, des lévites, chargés du sacerdoce, Nombre 18, verset 21. Et tous les trois ans, une part en était donnée à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Deutéronome 26, verset 13 et verset 12 à 13. Tout le monde devait donner ses dîmes. Il n'y avait pas d'exception. Même les pauvres, les prêtres et les lévites aussi. Alors, devant l'abondance, la variété des offrandes et des sacrifices caractérisant le culte israélite, nous pouvons dire que nous pouvons être confus de notre manière de servir Dieu avec les offrandes. Pourquoi Dieu, qui nous a tout donné, ne mérite pas le meilleur de ce que nous avons? Dans le cadre du Nouveau Testament, tous ces dons et les sacrifices de l'Ancien Testament sont abolis. Dieu nous a donné l'offrande la plus importante, son Fils. Il nous a donné son Fils qui est mort pour nos péchés, qui nous a purifiés gratuitement, sans aucun mérite de notre part, qui a donné toute sa vie pour nous sauver. Nous devons donc comprendre que Dieu nous a tout donné, même ce qui était le plus important chez lui, c'est-à-dire son Fils unique. À notre tour, nous devons nous offrir tout entier à lui en offrande sanctifiée par l'Esprit Saint. Romains 15, verset 16. Voyons les offrandes, les collectes et la dîme dans le Nouveau Testament. Au temps du Nouveau Testament, les sacrifices de l'Ancien Testament avaient encore cours. C'est-à-dire, avant que tout ne soit... avant qu'on ne puisse tout... comment dire ça? Avant qu'on ne... que le Nouveau Testament ne soit rédigé. Il y avait encore la loi de Moïse, les sacrifices étaient encore offerts. Vous vous rappelez que Jésus, que à la naissance de Jésus, on l'a présenté au temple avec l'offrande. Quelle était l'offrande qu'on avait donné à Dieu lors de la naissance de Jésus? Pardon? Vous murmurez quoi là? Hein? C'était des oiseaux. C'était ce qui était réservé aux pauvres, parce que ses parents étaient des pauvres. Jésus a également célébré la Pâque juive. Et c'est au cours de la Pâque juive qu'il a institué la Pâque chrétienne. La Pâque chrétienne qui est symbolisée par sa propre vie. La Pâque chrétienne signifie que Christ est mort comme sacrifice expiatoire pour nos péchés. Mais désormais, seules les collectes et les offrandes ont place dans la vie de foi, ainsi que les divers dons que nous devons donner à l'Église pour faire avancer le règne de Dieu parmi les hommes. Qu'en est-il de la dîme? Est-ce que la dîme est encore autorisée? Est-ce qu'il faut encore donner la dîme? En réalité, dans les évangiles, pendant la période transitoire, elle est pratiquée. Elle est même, c'est-à-dire avant qu'on fonde l'église, elle est encore pratiquée. Elle est même approuvée par notre Sauveur Jésus-Christ. Mais lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, on constate qu'on ne la mentionne plus. Les premiers chrétiens vendaient plutôt leurs biens et apportaient le produit aux apôtres en vue d'un partage équitable entre eux. Actes 2, 44, 45, Actes 4, verset 32. Dans les Épîtres, la dîme est remplacée par les collectes volontaires. Chacun donnait selon ses moyens. Pour aider les chrétiens de l'église mère de Jérusalem tombés dans la pauvreté après la persécution et la famine, chaque chrétien des églises d'origine païenne devait mettre de côté le premier jour de la semaine une offrande. Vous verrez cela dans 2 Corinthiens 8 et 9. Toujours dans le Nouveau Testament, on constate que les églises ont fait des dons volontaires à des serviteurs de Dieu. Par exemple, les Philippiens ont fait des dons à Paul. Philippiens 4, 16. Gaius a pourvu aux besoins des frères chrétiens, même des frères étrangers à la communauté. 3 Jean, verset 5. Et 3 Jean, chapitre 5, verset 6. Selon le Nouveau Testament, quel est donc le rôle de l'argent donné par les chrétiens à l'Église? Telle est la question à laquelle nous allons nous atteler à répondre maintenant. Quel est le rôle de l'argent donné par les chrétiens à l'Église? Jésus demande à ses disciples qu'il envoie en mission de ne prendre ni or, ni argent, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Marc 10, verset 29 à 30, Luc 10, verset 4, verset 7, Marc 6, verset 8 à 9. Paul rappelle aux Corinthiens ce principe selon lequel l'ouvrier mérite son salaire. Lorsqu'il dit, je le cite, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple ? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ?» Et il ajoute, « De même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » Fin de citation. 1 Corinthiens 9, verset 13 à 14. Cette déclaration de Paul fait écho à cette disposition de la loi de Moïse qui dit, je le cite, « Tu n'en museleras point le bœuf quand il foule le grain. » 1 Corinthiens 9, verset 3, confère Deutéronome 25, verset 4. 1 Corinthiens 9, verset 9, Deutéronome 25, verset 4. Comme vous le constatez donc, l'argent que nous donnons à Dieu est donc destiné à l'extension du royaume de Dieu, à la construction et à l'entretien des temples et presbytères, à l'extension et au développement de toute l'entreprise de témoignage chrétien. L'offrande, maintenant l'offrande dans l'église évangélique du Cameroun. Les offrandes, l'église évangélique du Cameroun, comme toutes les églises chrétiennes, vit matériellement des dons et des offrandes et des dons que ses membres lui donnent pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Statutairement, on peut citer les offrandes dont le montant par chrétien est laissé à la discrétion de chaque région et même de chaque paroisse, selon le nombre de ces chrétiens et leur pouvoir économique, et par rapport à la cible fixée par la caisse centrale et la région pour la paroisse et la région par la paroisse. Pardon. La région fixe aussi pour la paroisse. Ça dit que la région fixe une cible pour la paroisse. La région où l'église centrale. Les collectes spéciales dont le montant peut être fixé ou pas. Ces collectes sont envoyées directement à la caisse centrale de l'église en totalité ou en partie pour un besoin précis. Orphelins, ouvriers, ouvriers ecclésiastiques retraités, veuves et orphelins de ceux qui sont décédés, culte d'enfants, mission, etc. Les collectes ordinaires sont des dons volontaires sans montant précis offerts par les chrétiens à chaque service cultuel. Il y a aussi les dons de reconnaissance. Les dons de reconnaissance sont des dons annuels qui tirent leur lointaine origine de la fête des moissons de l'Ancien Testament. Exode 23, verset 16, 34, verset 22, Deutéronome 26, verset 11 à 11. Les dons de reconnaissance sont offerts par chaque chrétien une fois l'an en signe de reconnaissance pour tous les bienfaits dont le Seigneur l'a gratifié tout au long de l'année en cours. La périodicité de ces dons est fixée par région ou même par district ecclésiastique. Dans les zones rurales, on la fixe par rapport aux récoltes des vivres. Le montant n'est pas fixé, mais ils doivent représenter quelque chose de précieux et digne d'un don offert au roi des rois. Pour être proche de ces lointaines origines, souvent les dons en nature sont associés à de l'argent liquide. En donnant ces dons, il ne s'agit pas de faire semblant, d'offrir quelque chose de symbolique, mais de donner quelque chose de lourd qui nous diminue. Le don que le chrétien donne à Dieu doit le diminuer. Il ne doit pas donner du superflu. Il doit donner ce qui honore Dieu, son créateur. Ce n'est pas comme au village. Comme nous le savons, au village, le Dieu qu'on sert, c'est un chiffon. C'est un Dieu malheureux, misérable. C'est pour cela que on l'adore sous les arbres. Et ce qu'on lui donne, on verse au sol. Un peu de sel, un peu d'huile, peut-être quelques graines de maïs, la farine de maïs même. Voilà le Dieu qu'on sert au village. Et il faut être triste du fait que certains chrétiens servent aussi notre Dieu, le Dieu vivant comme ça. On a parlé de pièces jaunes ici. J'ai demandé même qu'on arrête ça. Les pièces jaunes viennent faire quoi à l'église? Comment on peut comprendre que on donne les pièces jaunes à Dieu? Ou vous allez peut-être pour acheter l'eau. Pour acheter l'eau pour qui? Pour les misérables pasteurs. On leur donne les petites pièces jaunes qu'on a au village, qu'on a à la maison. On ne peut même plus donner aux enfants. Les pièces jaunes. On vient verser au temple pour l'achat de l'eau des pasteurs misérables. Pauvre, misérable. C'est triste, n'est-ce pas? Moi, j'aurais honte de le faire si j'étais un simple chrétien. Et sur la table, quand on demande les offrandes, la collecte, il y a des gens qui ont préparé depuis la maison le 25, 50 francs, 100 francs. Cet argent c'est pour Dieu. On a trié, ne soit pas mis dans la caisse. Et cela, c'est ce que Dieu me dit. Je vous dis non. Je vous dis non. Dieu ne prend pas ça. Quand j'étais à Douala, avec la zèle, elle suivait. Vous allez dire ce que vous allez dire. Ça vous regarde. Et je dis ce que je dis. Vous allez dire ce que vous allez dire. Ça vous regarde. Et moi, je dis ce que je dis. Quand j'étais à la zèle, elle, à Douala, nous avons refusé les dernières pièces. Et nous avons dit, si quelqu'un donne ça, on ne prend pas. Et on l'a fait. Tu viens déposer ça à table, on trie. On trie ce qui convient à Dieu, on laisse le reste, on s'en va. Parlez plus fort, je n'entends pas. Parlez plus fort, je n'entends pas. Oui. C'est faux.
Vraiment, je pense, pasteur.
C'est faux.
Non, ne dites pas que c'est faux. Je pense, pasteur, que vraiment, vous devez plutôt sensibiliser le peuple de Dieu sur la manière de donner et sur ce qu'on donne, que de dire que quand les gens viennent donner les
précisions, je vais vous expliquer.
Chacun donne comme son cœur lui dit de donner. Et il donne vraiment, quand il sait qu'il donne, il donne à Dieu. Il ne vient pas donner à l'église, c'est à Dieu qu'il donne.
Je suis très content de la réaction. Je vais vous donner la parole. Je veux d'abord terminer. Je suis très content des réactions. Et je vais vous donner la parole. Chacun va parler. Si vous voulez, on continue jusqu'à 20h. Bien. Laissez-moi terminer. Je dis donc qu'on ne donne pas n'importe quoi à Dieu. On ne donne pas n'importe quoi à mon Créateur. On donne l'offrande au Créateur de toutes choses. Et il ne mérite pas qu'on lui donne du n'importe quoi. Même quand on donne aux malheureux, on ne donne pas n'importe quoi. Si on le donne comme chrétien. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'un païen est autorisé à donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu? En matière d'offrande, lorsqu'il s'agit d'associer les païens et les non-chrétiens en général, les avis sont partagés. Mais objectivement, l'offrande étant l'expression de la foi en Dieu et la reconnaissance du sauvé envers son sauveur, on ne saurait solliciter la participation d'un non-chrétien. Pour quelles raisons ferait-il des offrandes à Dieu? Et dans quel esprit le ferait-il? Lui qui ne tient pas compte de la volonté de Dieu dans sa vie, il risquerait même vivre dans des illusions fatales, pensant que ses offrandes pourront lui donner accès au paradis, ce qui n'est pas vrai. Dans le domaine de l'offrande, l'adage selon lequel l'argent n'a pas d'odeur n'est pas valable. À quoi servent les offrandes et les dons donnés à l'église? Nous avons déjà amorcé la réponse à cette question. Les offrandes et les dons donnés à l'église évangélique du Cameroun sont destinés au traitement des ouvriers ecclésiastiques, au fonctionnement des paroisses, districts, régions, à la caisse centrale de l'église, à permettre à l'église de payer sa participation au fonds des organismes nationaux et internationaux dont elle fait partie, au traitement des ouvriers retraités et des veuves de ceux qui sont décédés, aux diverses constructions et équipements des paroisses et aux actions sociales. La bonne manière pour le chrétien de faire des dons et des offrandes à Dieu. Ici, il faut tout d'abord relever une chose. L'argent est une puissance matérielle qui joue un rôle déterminant dans le monde actuel. Aucune association, aucune œuvre, aucune personne ne saurait s'en passer. L'Église, cette institution divine, confiée aux hommes pour la gérer avec l'aide du Saint-Esprit, en a aussi besoin pour accomplir l'œuvre de Dieu. Pour cette raison, les questions financières, avons-nous vu, sont très abordées dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, à côté des questions purement spirituelles. La Bible compte 500 passages qui parlent de l'offrande. Parler de l'argent dans l'Église ne saurait donc être ni un abus, ni une hérésie. L'argent est aussi utile à Dieu pendant la période qui nous sépare de l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Chaque chrétien normal devrait donc avoir dans son budget un chapitre pour Dieu. Il devrait normalement choisir dans ses biens la meilleure partie pour l'œuvre divine. Se soustraire à ce devoir est un péché. Choisir dans ses biens le superflu ou le résidu pour offrir à Dieu, c'est également un péché. D'ailleurs, il ne peut même pas agréer notre superflu et nos résidus. Retenez très bien cela. Si Dieu nous laisse la liberté dans ce domaine, dans le domaine des dons, à lui offrir, le croyant doit savoir que ce qu'il donne, il le donne à son Créateur. Celui qui l'a créé et qui le maintient en vie chaque jour. Celui-là qui a donné son Fils unique pour le sauver. La Bible dit que nous ne sommes que des instruments, des intendants des biens que Dieu nous accorde ici-bas. Dieu est donc en réalité le légitime propriétaire des biens que nous avons. Mais il nous laisse la liberté d'en jouir comme nous voulons. Dans ces conditions, si nous nous décidons de le servir avec une partie de ses biens, nous nous garderons de donner seulement quelque chose de symbolique. Il faut éviter aussi le légalisme qui consiste à donner tout juste ce qu'on a demandé sans rien ajouter ni retrancher. Nous devons vivre la rédemption et la nouvelle naissance jusque dans les questions financières. Nous devons vivre notre nouvelle naissance, la rédemption et notre nouvelle naissance jusque dans notre argent, jusque dans les questions d'argent. Si tu es né de nouveau, tu dois le prouver par ton argent. Les chrétiens doivent se montrer responsables du travail de Dieu en payant suffisamment leurs pasteurs et évangélistes, en faisant en sorte... J'ai entendu quelqu'un dire... Parce que j'ai parlé des pasteurs et des évangélistes. Que vous le vouliez ou non, c'est ça. Ou bien vous n'êtes pas chrétien. C'est cela. Ou vous n'êtes pas chrétien. Alors, les chrétiens doivent donc se montrer responsables du travail de Dieu en payant suffisamment leurs pasteurs et évangélistes, en faisant en sorte que rien ne manque dans la maison de Dieu. Lors de ces dons, il convient de se rappeler que Dieu n'est pas pauvre, qu'il n'est pas aveugle, qu'il nous traite comme nous le traitons et qu'il déverse de riches bénédictions spirituelles et matérielles sur ceux qui travaillent pour l'extension de son règne dans le monde. Malachie 1, versets 6 à 14, 10 à 12, 2 Corinthiens 9, 7 à 15. Je ne lis pas parce qu'il n'y a pas assez de temps. Quant à la qualité des dons, nous constatons dans l'Ancien Testament que Dieu n'acceptait pas n'importe quoi. Vous l'entendez? Dieu n'acceptait pas n'importe quoi. Le Créateur du ciel et de la terre refuse l'offrande de Caïn parce qu'elle est insignifiante. Dans Malachie, il reproche et maudit son peuple pour avoir volé les dîmes et les offrandes prescrites dans la loi. Genèse 4, verset 3 à 5, Lévitique 6 et 7, Malachie 1, verset 6 à 10. Notre vie étant devenue depuis notre nouvelle naissance la propriété personnelle de Dieu, tout ce que nous avons lui appartient, mais il nous autorise d'y prélever juste ce qui est nécessaire et suffisant pour son service. Ainsi, sans que la dîme ne soit la règle dans le Nouveau Testament et l'Église, c'est le minimum qui convient de donner à Dieu. Pour me résumer, nous disons donc que dans l'Ancien Testament, il y avait une multitude de sacrifices pour les péchés, pour telle ou telle chose. Mais Dieu, dans le cadre du Nouveau Testament, a supprimé tout cela. Il a remplacé par son propre Fils. Et étant donné que son Fils est mort pour nos péchés, gratuit, sans que nous payions rien, quoi que ce soit, étant donné que notre salut est gratuit, nous devons être reconnaissants en vivant, en donnant à Dieu des offrandes, en donnant de l'argent pour les services, le service chrétien, en donnant tout ce qu'on demande et même en proposant, hein, en donnant, en disant que faisons telle chose et on sort de l'argent pour ça. Par reconnaissance à Dieu, nous faisons également des dons aux frères et sœurs, aux pauvres, aux misérables, à ceux qui sont dans le besoin. Dieu, nous avons dit que Dieu n'agrée pas n'importe quelle offrande. Depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous constatons que Dieu n'accepte pas n'importe quel don. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ici que jusqu'à être coursé, n'est-ce pas? S'il y avait moyen de lutter, on aurait lutté. Mais parce que j'ai dit que Dieu n'accepte pas n'importe quoi. Je répète, Dieu n'accepte pas n'importe quoi. Et madame, vous pouvez vous justifier. Vous disiez que c'est parce que la pauvre, celle-là est pauvre. Et souvent, on prend le cas de la pauvre veuve du Nouveau Testament. C'est un faux. Je regrette. On n'a rien compris. La pauvre veuve a donné 2 pièces. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'elle avait gardé à la maison? Elle a donné tout ce qu'elle avait. Vous comprenez? Elle a donné tout ce qu'elle avait. Alors, si elle n'a plus, c'est plus que le Seigneur Jésus a dit que c'était plus que ce que les riches avaient donné. Parce qu'elle a donné tout ce dont elle, tout ce qu'elle avait pour vivre. S'il vous plaît. Ça dit que même son minimum vital était dedans. Mais elle a donné. Et vous voulez dire que quand vous priez 10 francs, vous venez donner à Dieu, c'est tout ce que vous aviez pour vivre. Vous mentez devant Dieu. Et je vous répète. Je vous répète. Et c'est dans mon devoir que Dieu n'accède pas n'importe quoi et il maudit. Si vous lui, vous, il vous traite comme vous le traitez. Il vous traite comme vous le traitez. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et je vous rappelle que Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Vous le savez. D'accord? Hein? Alors, ce n'est pas seulement l'affaire de l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, Dieu rejette ce qui ne lui convient pas. Même si nous prenons. Ce n'est pas parce que j'ai pris que Dieu a pris. Pas forcément. Nous n'avons pas assez de temps pour voir les passages bibliques. Maintenant, je vais vous laisser. Nous allons débattre maintenant. Je vous laisse la parole. Oui.
Car tu es mon rocher. Tu es le Dieu de mon salut.
Oh. Je voulais dire que vraiment, je crois que Dieu n'était pas content pour. Que 5 francs, Dieu ne peut pas te rejeter. Et vous avez dit quelque chose là. Vous avez dit que si on demande ou 100 francs, tu donnes que les 100 francs là, pas moins, pas plus. Donc, je ne comprends pas bien. Sinon, si je reviens à ce que l'offrande de Caïn, il avait trié les mauvaises choses de son champ. Si bien que dans ce qu'il donnait, il n'y avait rien de bon. Je ne sais pas si.
Pardon, permettez que je prenne la parole.
Bonsoir. Non, laissez d'abord, je réponds à ça. Je réponds d'abord à cette question. De toutes les façons, l'offrande de Caïn était mauvaise. Oui. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. C'est clair? Est-ce qu'on parle de dit qu'il a trié ce qui était mauvais avant de donner? Que ce qui était. De toute façon, il a trié ce qui était mauvais. Nous sommes d'accord. Alors, et quand quelqu'un donne la pièce de 5 francs, ce n'est pas mauvais. Pourquoi? Dieu est digne de ça. Donnez-lui le micro. C'est parce que Dieu est digne de 5 francs.
Révérend, vous avez parlé de l'offrande des païens. Et nous constatons.
Non, non.
Nous constatons aujourd'hui.
Nous sommes encore sur la première question.
Oui.
Est-ce que Dieu mérite 5 francs? Vos 5 francs.
Dieu est Dieu. Hein? Dieu est Dieu. On ne peut pas. Dieu. On ne peut pas mesurer Dieu. Selon moi. Je crois que.
Tu n'as rien compris.
Quand on donne avec cœur et avec tout ce que tu as. Je crois que quand tu donnes avec ton cœur tout ce que tu as, vraiment, je crois que tu as fait. On ne peut pas donner tous 10 000. Et encore, vous avez parlé de l'offrande des païens. Nous constatons que quand on prend au deuil là, les païens, ils donnent. Et le plus souvent là, nous constatons que même l'évangile qu'on prêche là, c'est comme on partait là-bas chercher de l'argent. Il fallait qu'on cherche à sauver les âmes que de parler de l'argent. Nous parlons.
Attendez, attendez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si. S'il vous plaît. Si j'ai touché. Si j'ai touché votre argent et que ça vous fait très mal et que vous voulez qu'on arrête, dites-moi. Parce que vous ne voulez pas qu'on touche de votre argent. Dites-moi.
Ce n'est pas.
Pardon, pardon, vraiment, permettez-moi de parler. Moi, c'est M. Ketcha Stéphane. J'exhorte l'enseignant qui est en face de nous de se conduire comme un enseignant. Vraiment, je m'excuse si je parle ainsi. C'est un peu agressif de la part d'un papa comme vous, dont on respecte, d'être autant violent. Moi également, je suis professeur de mathématiques au lycée classique. Et si je parle... Je dis bien que j'exhorte l'auditoire et l'enseignant en face de nous d'être un peu plus diplomate dans la façon de réagir. Bon, je viens à ceci. Tout à l'heure, on a parlé de l'offrande de Caïn. Il faut qu'on quitte là-dessus. La Bible ne dit pas que le cri était mauvais ou pas. On dit que Dieu n'a pas approuvé l'offrande de Caïn parce que le cœur de Caïn n'était pas disposé à cette offrande. Mais également plus tard, Paul va rappeler en disant que en été, Dieu faisait cela parce qu'il voulait rappeler que les fruits ne peuvent pas, les écorces ne peuvent pas couvrir le péché de l'homme. Il fallait l'animal immolé. Donc, pour rappeler à l'homme constamment le premier meurtre que Dieu a commis en tuant la bête pour couvrir Adam et Ève dans le jardin. C'est pourquoi Dieu agrée l'offrande d'Abel au lieu de Caïn. Parce que le sacrifice, le sang versé était important. Dieu avait un message à transmettre pour dire aux hommes, les écorces et les plants ne peuvent pas couvrir le péché dont vos parents et vous avez joui. Venant après cela, je pense qu'il est important de dissocier l'offrande du salut. C'est important. En tant qu'ancien dans ma classe, des élèves qui sont chrétiens et pas chrétiens. Et parfois, j'observe que les chrétiens sont ceux-là qui sont à l'arrière-plan par rapport à ceux qui ne sont pas chrétiens. Cela s'explique par un phénomène simple. Autant Dieu veut que le chrétien prospère, autant il veut que le non-chrétien prospère.
Ça va, ça va, ça va, ça va. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Suivez la réponse que je dois donner. Je dois d'abord dire que je ne suis pas un diplomate. Je suis désolé. Je ne suis pas un diplomate. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne l'offrande de Caïn, ne faites pas votre philosophie. Le commentaire que vous faites là, je ne sais pas d'où ça vient. Et en ce qui concerne la prospérité de ceux qui sont chrétiens, de ceux qui ne sont pas chrétiens, je ne comprends rien non plus. Je sais que c'est Dieu qui a créé le monde entier. Il fait pleuvoir sur les riches, pardon, sur les chrétiens et les non-chrétiens. Ça n'a rien à faire avec ce que nous sommes en train de faire maintenant, de dire là. J'ai dit que l'offrande du chrétien, le païen, n'a pas de place dans l'église. Parce que l'offrande de riz, du pauvre, de païen n'a rien à faire à l'église. Parce qu'il donne pourquoi? Et puis, il peut rester dans des illusions parce qu'il croit qu'il va dire qu'il a donné son argent, son nom est inscrit au ciel. Il faut dire à ceux qui sont païens et qui donnent l'argent, il faut leur prêcher l'évangile. Il faut leur annoncer l'évangile. Sinon, on refuse leur argent. Parce que en refusant, en prenant l'argent sans rien dire, c'est très dangereux. On fait du mal à ce païen-là qui a donné.
Bien, bonsoir à tout le monde. Je comprends que le débat soit assez houleux autour de l'argent. Mais je crois que ce que papa essaye de dire et qu'il est intéressant que nous saisissons, c'est que notre offrande est à l'image de ce que nous pensons de Dieu, de la perception que nous avons de Dieu. Si nous voyons Dieu comme celui qui est grand, celui qui est puissant, celui qui pourvoit nos besoins au quotidien, il va de soi que la qualité de notre offrande aussi sera proportionnelle. Qu'est-ce que tu penses de Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? C'est là tout le débat. Maintenant, pour ce qui est de l'offrande que nous apportons dans la maison de Dieu, l'offrande de la pauvre veuve, comme il l'a relevé, c'était le tout de cette femme. C'est en cela que cette offrande-là a toute sa signification. Et je voudrais nous mettre à défi. Vous avez des témoignages des personnes autour de vous. Ceux qui savent donner ont fait l'expérience de la bénédiction de Dieu dans leur vie. Je suis un témoignage vivant du don. J'ai appris à donner et j'ai également expérimenté la bénédiction de Dieu. Une chose est certaine, Dieu ne va jamais nous obliger à donner quelque chose pour son œuvre. C'est quelque chose de volontaire qui vient du fond du cœur. L'offrande, ça vient du fond du cœur. Si vous donnez par contrainte, ce n'est plus une offrande, ça devient une taxe, ça devient un impôt. Et à l'église, on n'a pas besoin de taxes, on n'a pas besoin d'impôts, mais on a besoin de l'offrande, c'est-à-dire ce qui vient du fond de notre cœur. Notre offrande, donc, doit être à l'image de Dieu et pour honorer le Dieu grand et puissant que nous servons. Voilà en fait ce que je voulais relever, tel que j'ai compris l'enseignement de Papa Mathieu. Merci.
Merci, pasteur. Merci, pasteur. Je crois que c'est le résumé. Quand les gens sont prêts à lutter, parce qu'on a parlé de l'argent, je comprends qu'ils adorent leur argent. Ils adorent leur argent parce que on a touché leur argent. On a touché leur argent. Ça fait mal. Je suis désolé. La Tamja, la capitale spirituelle, devait être la capitale où rien ne manque. Parce que Dieu a béni la paroisse. Dieu a béni, n'est-ce pas? Il y a sur le plan spirituel, sur le plan matériel, Dieu a béni. Je suis désolé qu'il y ait des gens qui sont prêts, s'il y avait le fusil, à tirer. Parce qu'on a touché l'argent. L'argent, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'argent?
Bonsoir les bien-aimés. Je voudrais vous faire plutôt mon propre témoignage. Voilà ce que moi je fais depuis que j'étais devenu chrétien. Ce qui fait que c'est difficile pour donner, parce que nous faisons notre budget sans tenir compte de Dieu. Mais ça, nous avons dans nos budgets ce que nous allons, quand on est malade, quand on veut envoyer l'enfant à l'école, on peut aussi pour le service de Dieu. Quand il y a le service de Dieu, tu ne fouilles pas, tu vas là où tu as mis pour Dieu, tu prends, tu donnes. Quand tu fais comme ça, ça ne pèse pas. Je vous assure que même quand j'étais misérable, c'est comme ça que j'avais fait. C'est-à-dire quand même si une personne vient me donner 200 francs, je pars dans les 200 francs. Je le dis pour Dieu, je ne mets que pas. Quand on veut travailler pour Dieu, je pars seulement là-bas, je prends, je donne. Quand je découpe ma canne, je mets sur ma tête, je vends. Ce que j'ai eu dessus, j'arrive à la maison. Ça, c'est le témoignage que je vous dis. Si quelqu'un peut aussi faire. Je prends pour Dieu, je mets des pour là-bas. J'ai une que je mets pour Dieu. Quand on veut travailler pour Dieu, pour moi, ça ne pèse pas. jusqu'à présent, quand je veux donner mon don de reconnaissance, mes offrandes, mes épaules, ça ne pèse pas sur moi. Ce n'est pas seulement là où j'ai pris pour Dieu, je donne. Ça ne peut pas peser sur moi. Inutile de dire qu'aujourd'hui, comme je n'ai pas le sel pour manger, je veux prendre le sel.
Si nous sommes au service du Seigneur, nous devons reprocher que l'enseignement qui est contre la volonté de Dieu. Mais quand l'enseignement est clair, quand ça va dans la direction de la volonté de Dieu, on doit se réjouir, même si ça nous touche, même si ça nous, ça nous blesse. Nous croyons avoir été dans la volonté de Dieu en ce qui concerne l'argent. L'argent que nous avons, c'est Dieu qui donne. Et il a sa part pour son service. Si nous sommes incapables de donner, ce n'est pas parce que l'argent a manqué, c'est la foi qui a manqué. Ça, c'est clair. Donc, on devrait être content d'avoir reçu un enseignement sur l'argent. Parce qu'on ne donne pas souvent. Parce qu'on a peur de toucher l'argent. Donc, c'est un sujet important et nous avons un peu abordé, un peu, je dis un peu parce que nous n'avons pas discuté vraiment. Je remercie ceux qui se sont déchargés, ceux qui étaient mécontents. Je demande pardon à ceux que j'ai blessés, mais comme je l'ai dit, nous devons être nés de nouveau jusque dans les questions d'argent. Sinon, nous ne sommes pas nés de nouveau. C'est la Bible. C'est la Bible. Ça ne sort pas de moi. Et je suis au service de la Bible. Merci beaucoup. Nous allons prier. Le temps est déjà passé. Nous allons prier. Levez-vous, s'il vous plaît. Que chacun se présente devant Dieu et qu'il reconnaisse là où il a failli en ce qui concerne les questions financières dans l'Église. Si nous aimons notre argent plus que Dieu, nous devons confesser. Si nous ne mettons pas la part de Dieu de côté dans nos biens, nous devons confesser et recommencer et commencer aujourd'hui à faire autrement. Parce que Dieu nous attend aussi là-bas. Ça fait partie de notre bonne œuvre. Nous devons demander à Dieu de nous donner une foi telle que nous pouvons le servir même avec nos biens sans être triste. Demandons à Dieu de nous donner une foi telle que nous pouvons le servir comme il le mérite, avec ce qu'il mérite. Confessons à Dieu que nous avons donné jusqu'ici des miettes et que nous allons changer. Et que les pièces jaunes ne sont pas pour Dieu. On ne donne même pas, puisqu'on ne donne même pas aux enfants de 5 ans. Reconnaissons que nous avons mal agi dans les questions financières. Et changeons d'avis. Demandons à Dieu de nous donner le courage de nous déposséder de ce qui lui appartient dans nos budgets. Qu'il nous apprenne à comprendre que ce que nous donnons à Dieu doit peser, doit nous diminuer véritablement. comme la pauvre veuve a donné tout ce qu'elle avait dans la maison, même ce qu'elle avait pour vivre. Remercions le Seigneur d'avoir compris que Dieu n'accepte pas les déchets. Remercions le Dieu Tout-Puissant de nous avoir donné cette opportunité d'être désormais éclairés en ce qui concerne les questions financières, afin que nous ne perdions pas nos bénédictions parce que nous avons été trop chiches. Demandons à Dieu de faire de nous des porte-paroles, ces porte-paroles, pour enseigner aussi aux autres, pour qu'ils comprennent comment ils doivent faire avec leur argent. Ceux qui ne sont pas venus ici. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Merci parce que cette parole est sortie de ta bouche ce soir. Nous confessons que nous avons été brutaux. Nous confessons que nous avons été trop touchés. Nous avons beaucoup souffert parce qu'on a parlé trop librement de l'argent. Seigneur, aide ton peuple à se donner à toi entièrement avec tout ce qu'ils ont et à être fier de te servir avec tout leur être et tout leur bien. Bénis ceux qui savent donner. Bénis ceux qui ne savent pas encore donner. Et enseigne-les, Seigneur. Donne-leur le courage de donner, Seigneur. Accompagne chacun de nous sur son chemin retour à domicile et veille sur nous tout au long de la nuit qui commence. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Je te donne ma vie, oui, je te donne ma vie.